Mais très bien.
On y va là, en route.
La première.
13h15, 14h30.
Un jour dans l'histoire.
Laurent de Hausset.
Vers 3200 avant Jésus-Christ apparaît en Égypte la figure du pharaon. C'est l'incarnation de l'institution monarchique égyptienne à mi-chemin entre les dieux et les hommes. Pharaon a été le cœur de la puissance de l'Égypte durant 3 millénaires. Aujourd'hui encore, sa figure marque les esprits, la mémoire collective et la culture. Il suffit de regarder, de lire les dizaines de films, de documentaires et de livres qui lui sont consacrés. Et Nicolas, aujourd'hui, vous allez explorer le rôle effectif, pratique et la représentation de cette figure imposante de l'histoire.
Oui, mais je ne vais pas faire ça tout seul parce que la tâche est...
Ardue.
Oui, ardue, pharaonique on va dire. Donc pour cela, j'ai rencontré Jean Huinan, professeur d'égyptologie à l'université de Liège, qui est l'auteur, justement, ça tombe bien, du livre « Les pharaons aux presses universitaires de France ». Alors Jean Huinan pose la question de la naissance, de la diffusion de cette image du pharaon. Comment l'Égypte de l'Antiquité conçoit cette idéologie monarchique? Comment elle la représente et puis la projette aussi vers l'extérieur? Comment cet idéal est diffusé dans la société égyptienne? Alors pour cela, les sources, bien sûr, sont évidemment très parcellaires, ce serait trop facile, et il faut les utiliser avec précaution. Eh bien, écoutons Jean Huinan après une introduction dans le plus pur genre du péplum.
À moi, Aymar, grand prêtre d'Égypte, revient l'honneur de rédiger la chronique du règne de Khéops, souverain de ce pays. Nous venons d'apprendre que de nouveau, il a été victorieux dans la guerre contre nos ennemis. Et maintenant, l'Égypte est devenue la plus grande nation sur la surface de la terre. Aujourd'hui, c'est le retour de Pharaon et de son armée.
L'histoire de l'Égypte, on l'a à la suite de Manéthon, qui est un historien grec et égypto-grec du 3e siècle avant de notre ère. Il a rédigé une histoire de l'Égypte qui est en grande partie perdue, on en a conservé de nombreux extraits, et c'est lui qui a balisé l'histoire de l'Égypte, a fait une séquentialité en dynasties, ce qu'il a appelé des dynasties, donc des réunions de rois, et il a découper l'histoire de l'Égypte en 30 dynasties. Et on se sert de ce modèle-là encore maintenant, lorsqu'on parle donc des pharaons, lorsqu'on parle de l'histoire de l'Égypte, on parle de la 18e dynastie, de la 20e, de la 1ère, de la 2e, etc. Donc ça, c'est un modèle que nous avons conservé. Si on se reporte donc au tout début, avant la 1ère et la 2e dynastie, il y a évidemment déjà quelque chose en Égypte. C'est une civilisation qui nous est surtout accessible par les ressources archéologiques. Il n'y a pas d'écrit. Ou extrêmement peu. Donc nous devons, à partir de ce que nous avons, les implantations archéologiques, l'analyse de certains symboles, de certains attributs, essayer de reconstituer ce qu'a pu être les débuts de l'État pharaonique. Et nous avons aussi tout ce que nous connaissons de l'époque historique, beaucoup mieux documenté, et nous avons évidemment la tentation de projeter sur le passé plus lointain une situation de l'Ancien Empire ou du Moyen Empire, mais qui n'est peut-être pas exactement la même. Donc ce que nous savons, c'est qu'il y a des États, ou plutôt des principautés, qui se constituent essentiellement en Moyenne-Égypte, donc à peu près au centre de l'Égypte actuelle, et qu'à un moment donné, un personnage suffisamment puissant va réussir à faire l'unification de cette partie de l'Égypte. Probablement pas de toute l'Égypte, mais de cette partie de l'Égypte. Et on le voit se représenter avec des attributs, c'est-à-dire avec un costume, avec des couronnes, avec des sceptres, que l'on va retrouver plus tard dans la présentation traditionnelle du pharaon. Mais ce n'est pas encore un pharaon qui règne sur la totalité de l'Égypte, et probablement que la symbolique qui est derrière n'est pas tout à fait la même que celle qu'on aura alors un peu plus tard, telle que la teste nos sources écrites. Donc vous voyez, c'est toujours un peu cette difficulté que nous avons pour les périodes les plus anciennes.
Quelles sont ces conditions d'émergence, j'ai envie de dire, d'apparition, et pour quel pouvoir?
Alors, pharaon, faut bien voir, est un terme relativement récent. Donc c'est pas comme ça qu'on appelle le roi. Normalement, en Égypte, dans les périodes classiques, le roi est traditionnellement appelé d'un nom double. Il est le roi de la Haute et de la Basse Égypte. C'est son nom complet, et ça fait allusion à cette période un peu mythique pour les Égyptiens de l'époque historique, où il y avait, nous dit la tradition, deux royaumes, un au nord, un au sud. Et le premier roi, dans la tradition, est celui qui a rassemblé, réuni sous un seul commandement, la Haute et la Basse Égypte, le nord et le sud. Et toute la symbolique royale va montrer ça. Le roi a un double nom. Il a deux couronnes sur la tête, une couronne qui symbolise le nord, une couronne qui symbolise le sud. Il y a des emblèmes, il y a des divinités tutélaires, protectrices, pour le nord, pour le sud. Une manière de se référer à l'Égypte et de dire le double pays. Donc il y a vraiment, dans l'Égypte historique et dans la symbolique royale, toujours cette dualité de l'Égypte va être remise en avant et va être thématisée. Ça, c'est vraiment très très important.
Quel était le rôle spécifiquement du pharaon ?
Là aussi, on est vraiment, on est très tributaire de nos sources. Les sources de l'idéologie définissent le rôle du pharaon de manière très simple et très restreinte, finalement. C'est celui qui assure l'intégrité du territoire et qui a pour mission même d'étendre le territoire de l'Égypte. Mmh. Il est ensuite celui qui rend le culte aux dieux, celui qui s'occupe des défunts, et celui qui doit s'occuper de la maat. La maat, c'est un terme extrêmement important qui signifie l'ordre, par opposition au chaos. Et c'est ce qu'on peut aussi parfois traduire par concept de justice ou d'harmonie. Le texte qui définit vraiment la fonction royale ne dit rien d'autre. Pourtant, on peut imaginer que le roi s'occupait aussi de l'administration, de la fiscalité, des revenus économiques, etc. On ne nous le dit pas, ça ne fait pas partie de ses missions. Les missions qui le définissent au regard de l'Égypte, de l'idéologie, c'est ce que je viens de dire. Et c'est comme ça qu'on va évaluer après les bons et les mauvais pharaons.
Tel est Pharaon, descendant direct de notre dieu Amon, dieu du soleil qui règne dans les cieux, comme Pharaon règne sur la terre.
La Terre des Pharaons, c'est un célébrissime péplum réalisé par Howard Hawks en 1955 avec la plantureuse Joan Collins qui va être rendue célèbre par Dynastie, le fameux feuilleton, mais ça n'a rien à voir.
Rien du tout.
Du tout. Les pharaons, donc redevenons sérieux, le pharaon a une fonction religieuse, donc Nicolas, il est investi par le divin.
Oui, alors c'est une question délicate, Laurent, puisqu'on a souvent voulu rapprocher cette relation divin dans l'institution pharaonique à celle qui caractérise la monarchie de droit divin, par exemple en France, celle de François Ier ou de Louis XIV. Jean Winant établit une nette distinction entre ces deux cas et discute avec nous la question de la représentation de Pharaon dans ses attributs divins et sa relation à la nation égyptienne.
Peuple d'Égypte, voici venue l'heure où Pharaon va déposer le fardeau de cette vie.
Anoubis, que fais-tu au dormeur qui fut souverain en ce monde ?
Je délivre mon frère de tout ce qui est terrestre, afin qu'il atteigne la vraie beauté.
Le roi, non seulement en Égypte, est investi en quelque sorte par le divin. Et donc nous aurons par exemple au Nouvel Empire des cérémonies au cours desquelles le dieu, au cours d'un oracle, choisissait le pharaon ou l'investissait. Mais de manière beaucoup plus forte, le roi est lui-même un dieu, d'une certaine manière. Il est le fils, disent les textes, le fils charnel du dieu Amon, par exemple. On ne trouvera pas, même dans les monarchies de droit absolu, de droit divin en Europe occidentale, des affirmations aussi fortes que de dire qu'il y a une relation charnelle, père-fils, entre le roi de France, par exemple, et Dieu. On ne va pas jusque-là, évidemment. Le roi est consacré, reçoit évidemment son pouvoir et ne le tient que de Dieu, dans la monarchie de droit absolu. Mais en Égypte, les choses sont beaucoup plus accentuées. Et le roi lui-même, une fois qu'il est défunt, devient lui-même un dieu, est assimilé en tout cas au divin, ce qui n'est pas le cas dans les monarchies occidentales. Normalement, le roi, c'est un être masculin, ce n'est pas une femme. Il est normalement succédé par son fils, normalement le fils aîné. Il est donc investi par la divinité, et puis il y a toute une administration qui est quand même une des définitions de l'État aussi. Donc il y a une administration qui est là, avec entre guillemets un premier ministre, qu'on appelle le vizir, parfois il y a eu deux vizirs, à nouveau pour refléter la dualité entre la Haute et la Basse Égypte, et puis toute une administration centrale, il y a une administration pour les finances, une administration pour l'agriculture, et il y a évidemment une armée qui est constituée, qui n'est pas une armée, qu'on pourrait dire nationale, c'est pas une conscription, mais qui incarne quand même la notion d'État. Et puis il y a un clergé dont, et ça aussi c'est la spécificité et une différence, je crois, par rapport à aux monarchies de droit divin en Europe, le roi d'Égypte est aussi le prêtre par excellence. Donc il a une fonction religieuse et spirituelle qu'un roi de France n'a jamais eue. Donc quand vous avez dans les temples des prêtres, les prêtres ne sont jamais vus comme des substituts du pharaon. Le seul prêtre, c'est le roi, en fait.
Vous avez parlé tout à l'heure des attributs de pharaon, ses attributs visuels, la barbe, les deux sceptres.
Si vous avez une représentation figurée, donc vous allez en Égypte, vous regardez les parois des temples ou les stèles, il y a d'abord une chose qui va tout de suite vous marquer, c'est la différence de taille. Donc si vous avez sur une représentation le roi et d'autres personnages non divins, donc le commun des mortels, le roi est toujours représenté dans une taille héroïque, donc 2, 3, 4 fois plus grand que les autres personnages. Oui. Donc déjà rien que ça, vous savez tout de suite où est le roi. Le roi et les dieux ont la même taille. Donc quand ils interagissent dans les temples, quand le roi fait une offrande à un dieu, ils ont la même taille. Et alors le roi a des attributs particuliers, il a une coiffe spéciale, il a la barbe postiche, il a un collier spécial, il aura un ureus sur le front, c'est-à-dire ce cobra royal qui est un protecteur de la royauté. Il a ses couronnes, bien sûr, qui lui sont tout à fait caractéristiques, et le commun des mortels ne porte pas de couronne. Il a un pagne particulier, et puis alors on le représente souvent avec un sceptre un peu recourbé, et une sorte de fouet qu'on appelle un flagellum, et il le tient en ayant les bras croisés sur la poitrine, dans une attitude un peu hiératique, et qui est celle que tout le monde connaît. Si vous regardez la momie de Toutankhamon, il est représenté donc dans cette position. Donc oui, il n'y a pas de doute. Je crois que c'est un peu comme dans les églises, si vous voulez, du Moyen-Âge. Il y a, pour le commun des mortels, pour la grande foule, il y a deux manières de voir les images. Pour ceux qui ne savent pas lire, et c'est quand même la majorité des Égyptiens, peuvent pas lire, mais ils peuvent voir les images. Et donc, il y a comme ça deux types de discours qui s'adressent à deux types de populations. Il y a des textes pour ceux qui ont accès d'abord aux monuments, où il y a des textes et qui sont capables de les lire. Mais il y avait aussi, je crois, comme dans les églises au Moyen-Âge et après, où on avait des représentations figurées, par exemple sur les chemins de croix, etc. Et bien, c'était aussi une manière d'instruction pour les fidèles. On ne pouvait pas lire, mais au moins on pouvait voir les images.
Nos connaissances, ou en tout cas nos perceptions, notre imaginaire concernant les pharaons, les différentes dynasties, sont liées aussi à des sources spectaculaires comme sont les pyramides ou les sarcophages. On y lit les noms de Khéops, de Ramsès II, de Toutankhamon. L'importance que ces noms ont pris dans l'histoire sont en relation avec ces découvertes spectaculaires ou avec les actes et leurs réalisations durant leur vivant.
Il est bien clair que Toutankhamon, par exemple, est un petit roi au regard de l'histoire égyptienne. C'est un roi qui est monté sur le trône assez jeune, qui n'a pas régné longtemps, il est dans une période extrêmement troublée, il est très probable qu'il n'a pas exercé lui-même la réalité du pouvoir, et il meurt assez jeune après un règne très très court. Donc si on n'avait pas retrouvé sa tombe, et une tombe pratiquement intacte avec tout le mobilier funéraire, donc au début du XXe siècle, on n'en aurait pas parlé, ça aurait fait trois lignes dans les livres d'histoire. Donc là, c'est clairement la découverte contemporaine et le retentissement que ça a eu dans la presse internationale qui font qu'on connaît le nom de Toutankhamon. À côté de ça, alors, il y a des pharaons qui ont eu une activité tout à fait considérable, qui ont été de grands rois et qui ont laissé des monuments. Donc c'est le cas par exemple de Ramsès II ou de Thoutmôsis III. Et puis alors, il y en a aussi qui ont laissé des monuments impressionnants. Vous parliez de Khéops tout à l'heure. Donc la pyramide de Khéops, tout le monde voit ce que c'est. Mais de Khéops lui-même, on ne sait pratiquement rien. Et puis alors, il y a des pharaons qui sont passés à la postérité aussi parce que nous en ont dit les auteurs classiques. Donc ça a été pendant très longtemps notre seule source d'information, ce que les auteurs classiques, essentiellement grecs, Hérodote par exemple, ou des gens comme Strabon, Diodore de Sicile, et dans la tradition occidentale, à la Renaissance, le temps moderne, avant le déchiffrement des hiéroglyphes qui nous rend la civilisation égyptienne dans son originalité, ben, il y avait évidemment toute une série de connaissances qui étaient déjà dans le monde occidental, et certains pharaons étaient passés à la postérité de cette manière-là aussi.
J'impose à l'Égypte une tâche qui serait impossible dans tout autre pays au monde. Sur les sables du désert, vous bâtirez une pyramide. Ce sera un édifice plus grand que tout autre sur la surface de la terre.
Amen. Amen. La figure des pharaons est indétachable des silhouettes de ces pyramides qui abritent leurs sépultures. Ainsi, Khéops, par exemple, qui est sans doute l'un des plus connus des pharaons, parce qu'il est bâtisseur de la pyramide qui porte son nom, n'est pas pourtant, Nicolas, le pharaon le plus important.
Non, d'ailleurs, Jean Huinan montre dans son livre que, bah, au-delà des cas de Ramsès II, Akhenaton, Khéops, Toutankhamon ou encore Khios, qui ont marqué les esprits et la recherche, il y en a d'autres qui le sont tout autant, si pas plus, notamment les femmes pharaons Laurent. On connaît Cléopâtre, bien sûr, qui clôt les dynasties des pharaons à l'époque romaine, mais il est une figure plus importante encore, Hatshepsut, qui est une reine pharaon, cinquième souverain de la 18e